Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin dans lequel on causera, entre autres, de comédie musicale, ce grand classique du livre de cinéma signé Alain Masson, qui est réédité par Marest Éditeur dans sa collection Marest Bis. C'est le numéro 2 de cette collection. On fera aussi un petit tour chez nos amis d'Auforge de Vulcain, Auforge de Vulcain Édition, donc qui nous propose alors un livre qui était déjà sorti depuis quelques temps, Jésus de Nazareth par Paul Verhoeven et un petit coup de main de Rob Van Cheers, et puis surtout qui nous propose Paul Verhoeven, la biographie donc de Paul Verhoeven par son ami Rob Van Cheers, justement. Donc tout cela va grandement nous occuper, tout comme le livre de la collection Persona, le nouveau livre de la collection Persona, donc une collection Carlotta Film, un livre qui s'appelle Rod Steiger, briller dans l'ombre, et qui est écrit par Baptiste André, qui est quand même, il faut le dire, le premier ouvrage consacré à cet acteur, aussi étonnant que cela puisse paraître. Nous irons faire un tour du côté des novélisations de Faute de Frappe Édition avec la collection Compact Horror, et cette fois-ci les novélisations de Cruel Joe's de Brad Carter et Le Carnaval des âmes de Andrew Roche. Et enfin, nous aborderons en compagnie de son auteur, Aurélien Léman, un livre paru chez le Feu Sacré Édition, un livre qui s'intitule « Les doigts de Tony Iommi ». Et oui, car si Ozzy Osbourne nous a quittés en 2025, le son de Black Sabbath, c'est aussi Tony Iommi qui en est à l'origine. L'équipe de Culture Prohibée remercie Séverine Danflou, Lucie Mottier, Estelle Roche, Marc Falvaux, Pierre-Julien Marest, David Meulemans et Fabien Thévenot pour leur aide sur cette émission. Pour causer sortie bouquin, je suis donc accompagné de celui qu'on surnomme le chat errant. Je veux bien sûr parler de Johan Chanoir, historien, critique de cinéma, enseignant à Sciences Po. Miaou à toi, Johan.
Bonjour à tous.
Également présent dans ce studio, le loup-garou Picard, qui lui ne fait qu'une bouchée des chats. Alors j'espère que la cohabitation va bien se passer. Un certain Thomas Roland, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Salut Thomas.
Salut Jérôme, salut Johan, et bien évidemment, salut à toutes.
Je vais ouvrir cette émission par un grand classique du livre de cinéma, un livre signé Alain Masson. Un livre qui s'appelle Comédie musicale. Bon, ça fixe tout de suite l'ambiance parce que c'est le titre définitif. Voilà, c'est le livre sur la comédie musicale. Et c'est pas loin de l'être et de le rester d'ailleurs. On va y revenir. Qui est un livre qui était auparavant paru chez Stock, puis chez Ramsey en poche. Mais ça, c'était autrefois, le siècle précédent en fait, où Thomas et moi étions de jeunes garçons, voilà, qui écumions, comment dire, les brocantes ou les boutiques de livres d'occasion pour trouver, entre autres, cet ouvrage sur le cinéma. Et bien là, il revient, cet ouvrage, dans une très chouette édition, dans la collection Poche des éditions Marest, à savoir la collection Marest Bis. Ce nouvel opus donc, est à seulement 12 euros, donc on ne peut pas dire que les cinéphiles qui ne le possèdent pas auraient une excuse pour ne pas l'acheter, hein, c'est impossible. Cet ouvrage référence est donc de retour, hein. On rappelle que lors de sa première parution en 1980, il s'impose tout de suite comme un ouvrage de référence sur le sujet, un travail titanesque à une ère où il n'existait aucune base de données en ligne, et oui, et... D'ailleurs, ce que souligne l'auteur dans sa postface, on ne pouvait voir les films que dans une salle de cinéma. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Donc, Alain Masson critique en premier lieu ce qu'est le genre. Il le décortique plus exactement à un genre qu'il trouve caractérisé par l'inachevé, par le vocatif. Et puis, il revient sur comment il est construit. Et alors là, il applique une méthode qui, pour moi... est presque digne d'Émile Durkheim, quoi. Voilà. Mais il l'applique à l'industrie hollywoodienne sur la manière dont on construit un certain type de film, et là, en l'occurrence, dont on construit des comédies musicales. Évidemment, il y a une grande partie de l'ouvrage qui est consacrée à Fred Astaire, hein, qui semble vraiment fasciner l'auteur, mais enfin, on ne peut pas vraiment le blâmer, hein, qui n'est pas fasciné par Fred Astaire, à condition, bien sûr, d'aimer la comédie musicale. Et puis, surtout, il y a... Ce que je trouve le plus intéressant dans le livre, c'est cette manière d'aborder le corps, la manière dont le cinématographe s'en empare, le contorsionne, le positionne dans l'espace, qui dit corps, dit fatalement érotisme aussi. Et là, Alain Masson écrit parmi les plus belles pages qui soient sur le sujet. Car oui, la comédie musicale a cela de particulier qu'elle laisse au public la responsabilité du désir. Et visiblement... C'est assez drôle et c'est très bien fait dans le livre, très bien détaillé. L'érotisme n'est pas le même qu'on soit à la Warner, la RKO, la MGM ou la Fox. Ça c'est vraiment particulièrement intéressant. Et puis, plus étonnant, le livre s'interroge avec beaucoup d'acuité sur ce qu'est la postérité du genre. Ce qu'Alain Masson évoque à nouveau, d'ailleurs, dans sa postface, via cette belle conclusion, hein, après avoir alloué Les Charmes de Chicago, La La Land, je partage un peu moins sur La La Land, mais bon, c'est chacun son avis, et Wicked, qui entretiennent la flamme d'un genre, et ça, c'est indéniable, qui ne sera jamais révolu. Franchement, est-ce qu'il y a vraiment un plus beau film sur l'industrie du cinéma que Chantons sous la pluie ? On est d'accord, en particulier sur ces transformations. Voilà les mots qu'écrit Alain Masson. Mon vieil ouvrage a gardé son unité, celle d'un temps où les films ne s'offraient aux critiques qu'à titre de souvenirs invérifiables, mais qu'ils pouvaient classer, comparer et proposer à l'admiration. Alors, en solo, en duo ou en chœur, nous vous conseillons de lire et relire cet indispensable ouvrage balayant tout un pan de l'histoire du cinéma, à savoir Comédie musicale d'Alain Masson, donc l'opus 2 de la collection Marest Bis, publié évidemment aux éditions Marest.
I think the person that for me represents and comes very close to Jesus is comes from a completely different direction. But I think it's a painter, and his name is a Dutch painter. His name is Vincent van Gogh.
Plus étonnant, plus costaud. Hein, je vais vous parler de deux ouvrages assez conséquents quand même. Deux petits pavés, chacun dans leur genre. Jésus de Nazareth, par Paul Verhoeven et Rob Van Schiers, et Paul Verhoeven, un peu par Paul Verhoeven, mais surtout par Rob Van Schiers. Deux ouvrages disponibles donc chez Auforge de Vulcain Éditions. Alors le premier, il est paru déjà il y a quelques temps, hein, c'est un texte de Paul Verhoeven. Alors c'est un texte très surprenant parce que c'est un véritable traité de théologie, hein, qui donne à avoir une vision du personnage de Jésus de manière très très érudite, alors avec parfois des descriptions d'ailleurs on sent la patte du réalisateur, hein, on sent qu'il rêve un peu de filmer tout ça, mais c'est surtout en fait une recherche très sérieuse qui s'appuie sur les textes bibliques, sur ceux de théologiens, et qui est une sorte de déconstruction en fait. L'ambition de Verhoeven, c'est de nous dire qui est vraiment Jésus selon lui, hein. Jésus qui, selon Verhoeven, donc selon les sources sur lesquelles il s'appuie, a vu sa véritable histoire est détournée par l'Église, transformée, vampirisée, voilà, pour produire une sorte de... Bah, c'est un peu l'homme qui tue à Liberty Valence, hein, c'est-à-dire que si la légende est plus belle, imprimez la légende, voilà, hein, John Ford, toujours. Les grands classiques, on n'oublie pas, voilà. Et bien là, l'Église, elle a fait du John Ford, hein, avec Jésus. En tout cas, c'est un peu la thèse que soutient Paul Verhoeven, hein, et qui a comme ambition quand même, parce que c'est pas n'importe quoi ce bouquin, de ramener Jésus parmi les siens, parmi les hommes, en fait, et de donner une version quelque part un peu objective de ce qu'aurait pu être une certaine Bible, selon Paul Verhoeven. Alors, il casse un peu des mythes, hein, sur certains actes perpétrés par Jésus. Il explique les miracles de Jésus comme des passages sous silence d'événements réels, en fait, qui peuvent s'expliquer. Enfin, il casse un peu le mythe, et puis surtout, il revient sur le fait que la prophétie de Jésus étant fausse, en fait, hein, parce que l'arrivée de Dieu sur Terre ne s'est pas révélée juste, puisqu'elle ne s'est pas réalisée, Paul Verhoeven, lui, se penche là-dessus, et il essaye donc de rétablir la vérité, on va dire, à propos des actes qu'aurait commis Jésus, alors Jésus qui a réellement existé de toute façon, et qui donc, chez Verhoeven, il y a l'ambition, mon cher Thomas, de donner une vision objective du personnage de Jésus. C'est quand même assez surprenant quand même de la part de cinéaste, on s'attendait un peu à tout sauf à ça quand le bouquin est sorti.
Paul Verhoeven a toujours été fasciné par la figure de Jésus-Christ, hein, d'ailleurs. Au départ, c'est un film qu'il voulait faire dessus, hein, et qu'il n'a pas pu faire jusqu'à maintenant, parce que quand on l'a rencontré, Christophe Cozins, je lui ai posé la question. Alors, ce film sur Jésus, vous avez abandonné l'idée? Apparemment, il n'a pas abandonné l'idée. Donc, en attendant, il a écrit ce livre justement pour raconter le vrai Jésus-Christ, qui il était, comment il a été conçu. Hein, vu, selon lui, il y a une explication à cette soi-disant conception par un Saint-Esprit, qui n'est pas du tout un Saint-Esprit. Hein. Donc oui, c'est un livre passionnant, très érudit. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que la figure christique, elle est présente dans beaucoup de ses films. Hein. La figure du martyr christique, elle est présente dans Robocop, entre autres, etc. Donc ça ne m'étonne pas qu'il s'est attelé à cette tâche, quand même une tâche assez conséquente et ambitieuse. Et j'espère qu'un jour, on verra enfin son film sur Jésus-Christ.
Ça fait partie un peu, effectivement, des mythes verhoeveniens, on va dire, comme ce fameux film qu'il nous promet depuis longtemps sur une vision plus juste de ce qu'était la France sous l'occupation et de la résistance. Ce sont des projets qu'il n'a pas encore réussi à mener à bien. D'ailleurs, ce que tu dis, c'est intéressant, Thomas, parce que, effectivement, cette attirance pour Jésus, Rob Van Schiers revient un peu dessus dans l'autre livre dont je vais parler, donc qui s'appelle Paul Verhoeven, Itinéraire d'un Hollandais violent, qui est paru aux Forges de Vulcain, et qui est l'ouvrage de référence sur Verhoeven. Et c'est assez marrant parce qu'il explique dans ce livre. Qui est un livre somme, hein, voilà, et qui d'ailleurs fait un peu des allers-retours parfois dans l'histoire et dans la chronologie. Et il explique qu'en fait, lui, il ne s'explique pas justement cette ferveur dès qu'on parle. Parce que Verhoeven, il faut savoir, ce qu'on apprend dans le livre, c'était un peu un petit génie. Il est né en 38, donc il a vécu, en l'enfance, la guerre, il a connu les bombardements, tout ça. Et il était fils d'un instituteur, et visiblement, ça lui donnait un statut particulier. Hein, c'est ce qu'on apprend en lisant le livre. Et du coup, il a un peu sauté des classes. Il était très, très doué pour les mathématiques, pour les sciences. Donc du coup, Rob Van Schiers dit « Ah, Verhoeven, il a une tout est scientifique pour lui, tout est mathématique. » Alors, sauf si on se met à lui parler de Jésus, alors là, on le perd. Voilà, c'est un peu ce que dit Rob Van Schiers avec humour dans le livre. Mais en fait, c'était un peu un petit génie. Il était en classe de 4e à l'âge de 8-9 ans. Il va avoir l'équivalent du bac. Donc, il va venir en France alors qu'il a 17 ans. D'ailleurs, Cocorico, en Picardie, n'en hein, déplaise à ceux qui disent que la Picardie a disparu, elle existe toujours. Il est venu dans l'Aisne. Il a fait une année ou deux d'études au lycée Saint-Martin à Saint-Quentin. Et d'ailleurs, il avait comme ambition aussi, parce qu'il voulait
faire du cinéma. Il voulait bosser dans le cinéma quand même. Et il avait comme ambition de s'inscrire à l'IDEC, l'ancêtre de la FEMIS. Et puis, en fait, je ne sais pas ce qu'il a foutu. Il est arrivé en retard. Et puis, il ne s'est pas inscrit à l'IDEC. Et il est rentré en Hollande faire des études de cinéma en Hollande. Bon, dans des écoles qui étaient quand même beaucoup moins pourvues en termes de moyens et de richesses pour avoir un enseignement, on va dire, d'une qualité, en tout cas telle que Verhoeven en rêvait, d'une qualité supérieure, parce qu'il pensait qu'à l'IDEC, vraiment, il aurait eu un autre enseignement. Néanmoins, il va très bien sortir de cette situation. Et dès son deuxième long métrage, il va, avec Turkish Delis, faire un peu l'équivalent de ce qu'a pu faire Les Valseuses en France, par exemple. Hein, c'est un film qui va faire à la fois scandale, parce qu'il y a aussi question de sexualité. Alors, on y retrouve aussi Rutger Hauer, hein, l'un de ses acteurs fétiches. Hein. Et surtout, c'est un gros succès. C'est un gros, gros succès. C'est aussi le début des malentendus pour Verhoeven avec la critique. On lui reproche d'être misogyne, on lui reproche d'être homophobe, en particulier après avec le film Spetters. Alors que c'est certainement l'un des plus grands défenseurs des minorités qu'il ait jamais eu dans l'histoire du cinéma. En plus, pas du tout avec un discours lénifiant. Sans doute pour ça d'ailleurs qu'on lui reproche, avec des personnages complètement hallucinants. Donc tout ça va finir par le fatiguer, il va quitter la Hollande, il va se pointer aux États-Unis et il va se retrouver sur Robocop. Ça fait un peu marrer tout le monde, personne n'y croit. Alors là, le livre, il est riche en anecdotes, mais surtout, hein, c'est super intéressant. Il y a vraiment plein de détails, on sent qu'ils sont potes parce qu'en fait, c'est des copains les deux là. Il y a des échanges avec Rob Bottin quand il crée l'armure de Robocop où Verhoeven le terrorise visiblement, c'est assez tendu. Pourtant, Rob Bottin, c'est une pointure, hein, The Thing, hein, les effets spéciaux mécaniques de dingue. Verhoeven n'était pas très fan du travail de Rob Bottin, disons, les premières ébauches, donc ça a un peu frité. On apprend plein de choses. Je ne vais pas vous raconter tout le livre, toute la vie de Verhoeven, il faut le lire. J'ai été surpris quand même, moi, sur une partie du livre où lui, il parle de la chair et le sang. Enfin, Verhoeven, il n'aime pas trop son film, en vérité. Il trouve que c'est un film qui n'est pas réussi. Et il considère même, ce que moi, je considère comme une qualité du film, mais que Jennifer Jason Leigh, c'est une erreur de casting, alors que je la trouve excellente dans le film. Et c'est pour lui, c'est une mauvaise expérience. Moi, j'ai appris ça en lisant le livre. J'ai vraiment appris ça. Il y a des choses que je savais déjà. Mais alors là, en lisant ça, j'ai vraiment découvert... cet aspect-là de la carrière de Verhoeven, je ne pensais pas qu'il nourrissait du ressentiment par rapport à ce film, qui est quand même considéré aujourd'hui par un petit classique de Verhoeven, par beaucoup de monde, quoi. Puis un des films les plus marquants sur le Moyen-Âge. Enfin, voilà. Mais quoi qu'il en soit, on savait qu'il n'aimait pas Holoman, moi ça je confirme. Hein. On savait qu'il considérait aussi Elisabeth Huppert comme la plus grande actrice avec qui il n'avait jamais tourné. Elle l'a complètement sidéré. Enfin, vous lirez. D'ailleurs, le livre débute par la montée des marches pour ce film. Il y a plein de choses dans ce livre. C'est à la fois la petite et la grande histoire. C'est ça qui en fait un livre passionnant. Et c'est aussi un livre qui révèle un itinéraire plein de contradictions, avec des allers-retours parfois brutaux, hein, entre différentes thématiques. Et qui, en fin de compte, lève le voile sans lever le voile sur Verhoeven, qui, tout compte fait, reste, malgré tout cela... reste mystérieux. Alors, tu l'évoquais tout à l'heure, toi, Thomas, tu l'as rencontré, Paul Verhoeven. On peut dire qu'il demeure un mystère pour nombre de cinéphiles, hein, visiblement, même pour Rob Van Schiers, qui en connaît énormément sur lui. Et au final, ce livre a l'écriture parfois abrupte. Hein, ce n'est pas un livre aimable, hein, le livre de Rob Van Schiers. Il y a des allers-retours, je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu chronologique, thématique. Ce mélange de petites histoires et de grandes histoires en fait un livre fascinant sur un cinéaste fascinant. Donc le livre s'appelle Paul Verhoeven. Tout simplement, hein, et il est publié aux éditions Aux Forges de Vulcain, et il se sous-titre Itinéraire d'un Hollandais violent, et effectivement, ce Hollandais violent, au final, malgré tout ce que nous dévoile Rob Van Schiers, eh ben, garde quand même sa part de mystère. Donc on vous conseille vivement de lire à la fois Jésus de Nazareth, donc de Verhoeven, qui est paru depuis quelques temps aux Forges de Vulcain, et puis ce récemment paru Paul Verhoeven de Rob Van Schiers, qui en plus est une édition augmentée pour ceux qui avaient acheté les éditions étrangères. Là, il y a des textes en plus, tout ça, enfin bref. On vous le conseille vivement. In the heat of the night.
I've got trouble wall to wall. Oh, yes, I have. I repeat in the night. Must be an ending to it all. But hold on. Just you be strong, and it'll be all right.
In the heat of the night.
Après avoir causé du monstre sacré, donc Paul Verhoeven, je vais maintenant aborder un autre monstre sacré, à savoir Rod Steiger. Alors Rod Steiger, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment un acteur qui a marqué tous les cinéphiles. Bon, il suffit de se souvenir du shérif dans La chaleur de la nuit de Norman Jewison, rôle pour lequel il a eu l'Oscar d'ailleurs, hein, et pour se souvenir aussi de The Pawn Breaker de Sidney Lumet, où il fait un rescapé des camps de la mort. Enfin, c'est un acteur absolument saisissant, incroyable. En plus, qui n'était pas du tout dans les canons esthétiques de son époque. Enfin, on va parler de tout ça avec un historien, hein, Johan Chanoir, qui est venu régulièrement dans cette émission, qui va nous faire le plaisir de nous rejoindre de temps en temps, maintenant, dès qu'il pourra, avec son emploi du temps très chargé. Et on va aborder avec lui ce livre de la collection Persona, qui est paru chez Carlotta Film, qui s'appelle Rod Steiger, briller dans l'ombre, qui est écrit par Baptiste André. Donc tout de suite, on va échanger autour de ce livre, ce sera plus simple, avec un passionné justement de Rod Steiger, et qui attendait ce livre avec impatience, qui, je le rappelle, est le premier livre en langue française sur cet acteur qui a marqué l'histoire du cinéma. Dans ce livre, l'auteur décortique le jeu de l'acteur, à travers aussi bien sa gestuelle, parfois appuyée, et à juste titre, hein, que son corps singulier, loin des archétypes hollywoodiens, et du sensuel et désirable Marlon Brando, parce qu'il y a toute une partie sur l'ombre de Marlon Brando qui plane comme ça sur cette époque, parmi les acteurs qui sortent de l'acteur studio, des adeptes de la méthode. Et l'auteur va même jusqu'à analyser d'ailleurs la façon qu'a Rod Steiger de manger à l'écran. Mais je pense que toi, la partie, toi en tant qu'historien, la partie qui doit le plus te parler revient sur deux grands personnages historiques. Alors il a aussi fait un personnage dans The Pawnbroker de Sidney Lumet, un rôle très intéressant, le prêteur sur gage, un personnage qui est historique aussi, puisque c'est un survivant des camps de la mort. Mais là dans le, il a interprété aussi, c'est vrai, deux grands personnages historiques que sont Mussolini, alors là il l'a interprété même deux fois, et Napoléon, hein, pour un film d'ailleurs dont on avait également parlé ensemble, hein, pour lequel tu avais même fait les bonus pour une édition Blu-ray DVD, si je ne m'abuse.
Oui, tout à fait. C'était Waterloo de Sergueï Bondarchouk, hein, en 70, où il joue, comment dire, Napoléon au moment des adieux de Fontainebleau, et puis après, lors de l'épopée des 100 jours, et ça se finit par la bataille qui donne son titre au film. Alors effectivement, il a joué deux fois Mussolini dans un film de 74 de Carlo Vasari, et puis dans un film dont on a parlé dans une émission précédente, Le Lion du désert, en 1981, de Mustapha Akkad, où il reprend le personnage de Mussolini. C'est vrai que le livre, tu l'as dit, hein, place vraiment la focale sur le jeu d'acteur, la gestuelle, la voix, etc., ses yeux, sa manière de manger, tu l'as très très bien rappelé. Moi, je suis pas un peu déçu, parce que l'auteur Baptiste André est un doctorant qui travaille apparemment sur tout ce qui est gestuelle, technique d'acteur, etc. Mais parfois, il passe à côté un peu de l'homme, Rod Steiger, de l'acteur, et j'aurais aimé en savoir un peu davantage sur cette figure qui n'a pas eu la carrière, d'ailleurs, qu'il aurait pu avoir, parce qu'il y a une sorte d'éclipse après son Oscar dans un film formidable. Et après, malheureusement, il est moins choisi par les studios. Et comme tu l'as dit, pour conclure, l'auteur dit qu'en fait, c'est un peu la faute de son corps, qui n'est pas dans les canons, et puis peut-être aussi de la concurrence, tu l'as évoqué également, de Marlon Brando, qui est une star infinie. Et lui, il est un peu dans l'ombre de ce grand acteur. Et d'ailleurs, le titre du livre est assez évocateur, hein, c'est « Briller dans l'ombre ».
Après les monstres sacrés, moi je vais vous parler un peu
d'autres sortes de monstres, des films monstres par ailleurs, alors pour des raisons différentes hein, d'ailleurs, hein, parce que autant le Carnaval des âmes de Rupert Harvey, il a marqué l'histoire du cinéma, on peut pas vraiment en dire autant du Cruel Jaws de Bruno Mattei, hein, ou pour des mauvaises raisons, voilà. Et en tout cas, l'éditeur Faute de Frappe là nous propose dans sa collection Compact Horror, les numéros 8 et 9, qui est une collection qui tourne autour du cinéma. Il y a des novélisations et parfois, on avait parlé il y a pas longtemps de cette excellente, j'ai envie de dire vraie fausse novélisation, c'en est une, mais on s'écarte un peu du film par moment avec talent, de Stéphane Bourgoin autour de Maniac, le film de Lustig. Bon là, déjà, je voudrais quand même adresser un grand merci à cet éditeur, Marc Falvaux, parce qu'il prend soin de son lectorat. Donc il lui prodigue des conseils judicieux pour passer de bonnes vacances estivales quand même. Parce que les deux derniers opus de cette collection, la Compact Horror, donc, sont parus chez Faute de Frappe, prennent bien soin de nous protéger à la fois des dangers de la vitesse et de l'alcool au volant, ainsi que des baignades risquées car trop proches de lieux de villégiature de requins cruels. Eh oui. Commençons par le numéro 8 donc, de la collection Compact Horror, qui est une novélisation du Carnaval des âmes. Alors, ce fabuleux film culte de Rupert Herc Harvey, qui a inspiré, entre autres, La nuit des morts vivants de George Andrew Romero, et dont l'étrange étrangeté infuse toute l'œuvre d'un certain David Lynch, je crois qu'on peut le dire, hein. On le dit assez rarement au sujet de Lynch. Donc inutile donc de préciser qu'Andrew Roche, lorsqu'il choisit de revisiter Carnival of Souls, s'attaque à un monument de la cinéphilie. Le genre de film adoubé aussi bien par Mad Movies que Télérama. D'ailleurs, Arte le rediffuse régulièrement pour notre plus grand bonheur. C'est même la chaîne franco-allemande qui l'a fait découvrir au public hexagonal lors d'une de ses mémorables soirées Halloween. Alors Andrew Roche, qui a beaucoup écrit sur le cinéma, avec par exemple des ouvrages sur Stephen King, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, n'est pas sans le savoir. Dans la préface, c'est même avec une certaine humilité toute cinéphile que l'auteur nous prévient qu'il va revisiter ce film unique, n'hésitant pas à y ajouter une deuxième fin, qu'il ne nous encourage pas forcément à lire. Étonnant. Comme s'il craignait de se confronter à un tel Everest, en fait, du cinématographe. Et si, donc, récemment, j'ai été très enthousiaste concernant Le Maniaque de Stéphane Bourgoin, l'un des meilleurs opus publiés dans cette même collection, je le suis moins vis-à-vis de cette novélisation du Carnival of Souls de Rupert Herc Harvey. Le style déployé par Andrew Roche est d'une grande efficacité, c'est vrai, il écrit façon hard-boiled school, sa plume est âpre, sèche, et si cette écriture convient bien au polar et à l'horreur pure, je la trouve moins appropriée pour une œuvre plus sensorielle et hallucinée telle que Le Carnaval des âmes. Dans ce livre, il manque pour moi une petite touche de poésie, un petit parfum d'étrangeté, ce qui fait tout le charme du film original. Néanmoins, les pérégrinations de Marie, seule survivante d'un accident de la route, harcelée par d'étranges visions mortifères ainsi qu'un voisin de palier lourdingue, ces pérégrinations revues par Andrew Roche vont ravir celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film. Pour les autres, ce sera différent, parce que ce livre en constitue en quelque sorte une porte d'entrée intéressante. Ils vont découvrir dans ces cas-là un ouvrage sur la mort, son acceptation, qui est écrit sans fioriture et qui contient sa part de mystère que je ne me permettrai point de révéler ici. L'autre opus, le number 9 de cette collection Compact Horror, est d'une toute autre espèce, plus agressive, gloutonne. Et ce, même si nous ne sommes pas sans ignorer que le vrai prédateur, c'est l'homme et non pas le grand blanc. Il suffit de voir le très fun Dangerous Animals sorti lui aussi cet été pour s'en convaincre. Un cran, voire 100, en dessous du modèle de série B horrifique de Sean Byrne, il y a Cruel Jaws de Bruno Mattei, un film que nos amis transalpins n'hésitent pas en 1995 à rebaptiser Jaws 5 pour l'exploitation mondiale. Bah quoi, c'est vrai, le 4, signé Joseph Sargent, lorgné sévèrement vers le nanar. Mattei n'ayant pas supporté de se faire damer le pion, il a salopé cette série Z venue d'ailleurs. Alors c'est ma théorie, hein, mais je la partage. Voilà. Histoire d'en montrer aux États-Unis hein, quand même. Non mais les gars, les nanars, c'est moi, c'est Bruno. Ok. Et si on aime bien Scalps, Bianco Apache, Les Rats de Manhattan, Virus Cannibal, alors pas toujours pour des bonnes raisons, mais en tout cas, c'est des films que moi j'aime bien. Mais là, force est de reconnaître quand même que ce Cruel Jaws, c'est quand même un film dénué d'intérêt. Il faut dire les choses hein, très clairement. La question du coup que se pose avec force tous les amateurs de bis, c'est pourquoi novéliser ce film ? Il y a une vraie question. Bah, la réponse est simple. pour en faire un livre mille fois mieux que le film. Et ben voilà, un livre qui laisse augurer de ce qu'aurait pu être Cruel Jaws entre de bonnes mains. Voilà, un bon scénar avec un bon réal. Ça aurait pu être un film vraiment assez extraordinaire. En lisant cette novélisation signée du prolifique Brad Carter, qui a aussi novélisé d'ailleurs Virus Cannibal. C'est un grand malade le mec, hein. C'est un grand malade. On prend un gros panard. Brad Carter, qui est un fou de cinéma bis, a la bonne idée de pousser tous les potards à fond. Et si plus personne se souvient du film, sauf les fanats de Bruno Mattei, petit coucou à David Didlot, hein, l'auteur de Bruno Mattei, Itinéraire bis, paru chez Artist Film, qui est souvent venu dans notre émission et qui signe là une préface très enthousiaste, mais à juste titre, hein, parce que le bouquin est vraiment bien, car Brad Carter signe un ouvrage absolument délirant. C'est une joyeuseté bien bis qui se dévore avec voracité. Son livre n'aurait pas dépareillé dans la bonne vieille collection Gore, que l'éditeur Marc Falvo d'ailleurs connaît d'ailleurs fort bien, avec de belles surprises à venir. Cruel Jaws contient tous les ingrédients nécessaires du gore, donc de l'érotisme bien sûr, de la méchanceté gratuite, et oui, tout le monde y passe, des enfants aux handicapés, parfois les deux en même temps d'ailleurs. Cruel Jaws, revu par Brad Carter, s'apprécie comme une bonne sucrerie délicieusement immorale, avec ses notables et entrepreneurs véreux de tout poil, son vrai-faux biologiste marin adepte de la défonce et de la bagatelle, ainsi que la sculpturale et badass Vanessa, et bien sûr du squal, en veux-tu, en voilà, du grand blanc version Ultimate. Je vous en dis pas plus, à la lecture de Cruel Jaws, on se surprend à rêver du film que pourrait en tirer donc un bon réal. Et puis, ce qui ne gâche rien, l'ouvrage est écrit dans un style fluide, c'est agréable à lire. Ce prolongement au film est, vous l'aurez compris, largement supérieur au film dont il s'inspire. Donc on vous le recommande vivement. Alors pour rappel, Cruel Jaws est écrit par Brad Carter, c'est le numéro 9 de la collection Compact Horror paru chez Faute de Frappe Édition. Et le Carnaval des âmes numéro 8 de cette même collection est signé Andrew Roche. Bonne lecture, les amis. On va quitter Faute de Frappe Édition pour se diriger vers le Feu Sacré Édition et aborder un ouvrage qui s'appelle Les Doigts de Tony Yomi, qui est suivi d'un autre texte qui s'appelle Le Fils de l'Huître. C'est un ouvrage de Aurélien Le Mans. Aurélien Le Mans qui nous fait la gentillesse de bien vouloir évoquer donc cet ouvrage qui est paru dans la collection Menace Mineure, qui est une collection poésie. Hein. Donc c'est pour ça que le livre est singulier. Hein. Il a une manière d'aborder le fameux Tony Yomi, hein, qui est donc évidemment le guitariste émérite du groupe Black Sabbath. Black Sabbath qui a inventé un son absolument unique et dont on a pas mal parlé récemment suite à la mort de son chanteur légendaire Ozzy Osbourne. Donc tout de suite, on parle du livre Les Doigts de Tony Yomi en compagnie de son auteur Aurélien Le Mans. Alors avant d'aborder l'ouvrage en question, moi je voulais un peu que nos auditrices et auditeurs fassent plus connaissance avec vous, parce que pour préparer cette émission, j'ai épluché un peu votre parcours. Et bon, c'est assez dément quand même. Vous êtes une sorte de concentré de culture populaire. Vous dormez pas beaucoup, je pense.
Alors, je dors très peu, mais c'est pas par choix, c'est par nature, et je préférerais qu'il en fût autrement, croyez-moi. En fait, ce que les gens ne savent pas beaucoup, c'est qu'en réalité, mon métier, avant tout, c'est comédien. C'est-à-dire que je suis artiste dramatique de formation, de goût, de métier. C'est ma principale activité, ma principale source de revenus. C'est ce qui fait battre mon cœur. Et il se trouve que le théâtre, c'est quand même d'abord de la littérature, une littérature qu'on va évidemment travailler, apprendre pour la jouer devant un public. Et donc, qui dit littérature dit livre. Et évidemment, comme la plupart des comédiens et comédiennes et metteurs en scène de France ou d'ailleurs, j'aime lire. Et j'aime écrire. J'écris du théâtre, aussi beaucoup de la poésie, sachant que le théâtre est souvent considéré comme de la poésie. Il est même régulièrement vendu dans les rayons poésie de la FNAC ou des vraies librairies. Donc ça, c'est vraiment mon terrain de jeu premier. Et puis, par un hasard, le hasard des commandes et de la vie, on m'a proposé d'écrire des essais, des monographies sur des sujets qui me passionnaient, qui sont effectivement issus pour la plupart de la culture populaire, voire de ce qu'on appelle en anglais la culture pop, c'est-à-dire oui, la science-fiction, les super-héros, le hard rock, la bande dessinée d'une manière générale, mais ça pourrait aussi être des choses un peu plus folkloriques comme la commedia dell'arte ou que sais-je. Enfin, j'aime écrire sur des gens et des œuvres qui ont changé ma vie et qui, je le sais, ont changé la vie de centaines de millions de personnes. L'idée, c'est juste d'essayer de dire quelque chose d'un petit peu plus intéressant que simplement faire une biographie, parce qu'il en existe de très très bonnes, ou... Je sais pas, il y a plein de livres qui existent sur tous les sujets qui me passionnent. J'essaie toujours d'aborder ces sujets-là par le cœur et sans oublier de mettre de l'idée, de mettre de l'analyse. Mais je fais une sorte de mélange. Et c'est peut-être pour ça que le côté comédien d'un côté et poète de l'autre, ça crée une collision un petit peu intéressante. C'est-à-dire que je fais pas le livre d'un acteur, je fais pas le livre d'un écrivain. J'essaie de faire quelque chose qui soit l'aboutissement de toutes ces formes-là.
Ah, clairement, le livre va surprendre, je pense, quelques auditeurs, parce que effectivement, alors le livre est consacré en grande partie aux fameux, en tout cas pour les amateurs de Black Sabbath et de métal, au fameux Tony Iommi. C'est un musicien de génie. Hein. Alors récemment, il y a Ozzy Osbourne qui est décédé, donc on a beaucoup reparlé de Black Sabbath. Vous écrivez quelque chose, moi, une phrase, parce que il faut préciser comment dire que la forme du bouquin est particulière. C'est un vrai livre de poésie, c'est une vraie proposition. Et vous démarrez ce livre, c'est pas la phrase du début, mais en tout cas par une phrase que j'aime beaucoup. Vous expliquez que Tony Iommi, lui, il replace l'aigu à la crête des tritons. Alors je trouve que c'est une superbe formule pour expliquer ce qu'est Tony Iommi, parce que Tony Iommi, c'est pas un musicien comme les autres, quand même. C'est un musicien qui n'aurait jamais dû devenir musicien.
Absolument. En fait, sa destinée est liée à un accident. C'est-à-dire que, alors qu'il est âgé de 16-17 ans, il est apprenti dans une usine de découpe de feuilles de métal, d'aluminium. Mais c'est pas un job qu'il veut faire. Lui, il rêve d'être guitariste quand même. Il a déjà un passif de musicien dans différents groupes. À l'époque, évidemment, le hard rock, le métal n'existe pas. On est en 1965, on est en plein pendant, on va dire, on est aux avant-postes de la British Blues Explosion. On est ce moment où les musiciens britanniques se s'emparent du blues venu d'Amérique du Nord, et on a eu déjà évidemment les Beatles, les Who, les Rolling Stones, etc. Et en fait, lui, il a fond dans cette mouvance, mais ce qui lui arrive, c'est que dans ce job alimentaire dans cette usine de Birmingham en Angleterre, il perd le bout de deux doigts de la main droite, l'annulaire et le majeur. Et le fait est que Tony Iommi est gaucher. Ça veut dire que sa main droite lui sert à plaquer les accords et à donner, en fait, on va dire, la valeur de la note sur le manche de la guitare. Donc en fait, il se sent condamné à ne plus jamais pouvoir jouer de la guitare, donc à ne pas pouvoir faire carrière dans la musique. Et ce qui est merveilleux, c'est que le patron de cette usine va venir le trouver chez lui, lui apporter quelques jours après cet accident un disque de Django Reinhardt, en lui disant: voilà, écoute, Django Reinhardt, il a perdu quasiment toute sa main, et écoute ce qu'il est quand même capable de faire à la guitare, c'est extraordinaire. Tony Iommi n'a pas du tout envie d'écouter ce disque-là, il fait quand même l'effort, et là, non seulement il tombe amoureux de cette musique, qui n'est pas du tout sa musique de prédilection, il ne va pas du tout aller vers le jazz, il ne va pas du tout aller vers la musique manouche, vers le swing, etc., mais il s'est dit: si ce mec est capable, avec encore moins de doigts que moi, de faire des trucs pareils, moi, il faut que je trouve une solution. Cette solution, il va la trouver. Alors je t'explique poétiquement, dans les doigts de Tony Iommi, dans ce livre de poésie dont vous parlez, tout ce qui est possible pour pouvoir continuer à jouer, à pouvoir appuyer sur le manche de la guitare pour créer les notes et sans trop souffrir, sachant que l'accident donc date de 1965, aujourd'hui en 2025, il a encore mal aux doigts à chaque fois qu'il presse sa main sur le manche de la guitare. Et je laisserai quand même aux auditeurs qui sont intéressés par ça le soin de découvrir par eux-mêmes, soit sur internet, soit dans mon livre, comment Tony Iommi, par quels moyens, il y en a trois, il a réussi à faire en sorte que sa main puisse jouer et ne souffre plus. Mais il y a un truc quand même que je peux dire, c'est que il a été contraint, pour des raisons de souffrance physique, d'étendre légèrement ses cordes de deux demi-tons sur sa guitare, de manière à ce qu'il soit plus lâche, plus souple, qu'il ait moins mal au bout de ses deux doigts coupés. Et c'est ce qui a permis, avec quelques, on va dire en tripotant un petit peu les potentiomètres sur sa guitare, sur son ampli, c'est ce qui lui a permis d'avoir ce son unique au monde, qui est une grande première et qu'on va pas tarder à baptiser heavy metal, c'est-à-dire un son de guitare extrêmement saturé, distordu, très grave, très profond, volontiers agressif, qui va bien plus loin que le hard rock de Led Zeppelin ou de Blue Cheers ou des débuts d'Alice Cooper ou même de Deep Purple, quelque chose qui va être beaucoup plus radical, beaucoup plus sombre et paradoxalement beaucoup plus blues encore. Là, on va se rapprocher vraiment du blues des origines, de quelque chose à la fois très poétique, très beau, très énergique et en même temps très lugubre et très chargé d'émotions contradictoires. Et évidemment, ça va être l'un des musiciens les plus influents de tous les temps, au même titre que Jimi Hendrix ou Jimmy Page, peut-être même encore plus que ces deux-là, parce que même s'il est techniquement moins bon que Jimmy Page ou Jimi Hendrix, Tony Iommi, lui, va inventer un son qui va pouvoir être récupéré par littéralement tout le monde, en fait. Et qui va être le son de Nirvana plus tard, qui va être le son de tous les groupes qui vont suivre, Judas Priest, Iron Maiden, ou bien plus tard System of a Down, qui vous voulez. Tout ce qui est estampillé metal, heavy metal, ça vient directement de Black Sabbath, le groupe de Tony Iommi.
Pourquoi alors c'est cette ténacité en dehors du musicien, parce que qui a écouté en particulier, moi je pense aux tout premiers albums de Black Sabbath quand il y a encore Ozzy Osbourne à la voix et le premier qu'on met sur sa platine avec cette pluie, avec cette ambiance de messe noire et tout ça marque forcément et je suppose qu'il y a un mélange de tout ça, c'est-à-dire de l'écoute de Black Sabbath et en même temps pourquoi Tony Iommi. Par rapport à sa ténacité, par rapport à quoi ? Qu'est-ce qui a fait que Tony Iommi plus qu'un autre ?
Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en effet, mon recueil de poésie n'est pas directement un livre sur Black Sabbath, même si, bien sûr, on en parle majoritairement. Dans la carrière de Tony Iommi, c'est crucial. Pourquoi lui ? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que je découvre... Je pense en 2013 que Tony Iommi est atteint depuis quelques années déjà à l'époque d'un cancer un peu particulier qui, je ne le sais pas à l'époque, peut se soigner plutôt bien, mais qui est quand même un cancer très très vicelard parce que il attaque de partout à la fois, il peut surgir de partout. Et c'est donc un cancer de la lymphe en fait. Et donc il est. C'est pas un cancer généralisé au sens propre, mais. Il est potentiellement dans tout le corps. Et donc, ça me fait flipper pour lui parce que j'apprécie énormément son talent, son répertoire, le son qu'il a produit. C'est évidemment quelqu'un de très important pour moi en tant qu'auditeur et en tant que fan de métal. Mais il y a un autre phénomène aussi, c'est que il a très exactement un an de moins que mon père et tout simplement, j'ai peur pour mon père. Je me dis, tiens, voilà, c'est cette époque où, dans une vie, où on peut commencer à avoir des maladies graves, peut-être mortelles ou irréversibles. Et en fait, donc ça a rencontré une autre de mes phobies que j'ai beaucoup moins maintenant, qui est celle de développer un cancer moi-même. Et donc, en 2013, j'ai entrepris d'écrire ce livre-là. C'est de la pensée magique, hein, si vous voulez, c'est de la superstition, mais pour pour tenir le cancer à distance de ma propre vie et de mon propre corps, mais aussi de par rapport à mon père. Et voilà, c'est, aujourd'hui, le livre sort pour d'autres raisons, parce qu'il y a un texte poétique qui raconte avec une certaine frénésie, je pense, mon amour pour une certaine forme de musique héritée du blues et du folk, qui est donc le heavy metal. Mais à l'origine, il y a une espèce de truc un peu thérapeutique, une sorte d'expérience avec le cosmos pour dire le cancer, j'en veux pas. Et en même temps, c'est aussi une façon d'envoyer des bonnes ondes, si on veut, à Tony Iommi pour le protéger, entre guillemets, de manière très, 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 très humble et un peu comme un enfant. Hein. C'est qu'il y a quelque chose de très enfantin là-dedans.
D'ailleurs, le livre démarre hein, par une phrase. En plus, à chaque fois, il y a beaucoup de phrases qu'on peut extraire du livre qui peuvent être vues dans un sens comme dans l'autre. Et cette phrase qui démarre le livre, elle pourrait aussi servir d'épitaphe à nombre d'entre vous. Chaque homme besogne à nourrir et élever son cancer.
Les gens s'attendent à une espèce de biographie, je pense, de Black Sabbath et une description peut-être littérale de la vie du groupe, d'une étude comparée des différents morceaux de différents albums. Moi, c'est pas du tout ça qui m'intéressait. Il existe plein de livres sur ce sujet, évidemment, et il y en aura d'autres qui sortiront. Surtout depuis la mort de Ozzy Osbourne. Moi, c'est un texte qui, effectivement, pour les trois quarts, date d'une période de rédaction qui est très ancienne maintenant, puisque j'ai commencé, comme je le disais, en 2013, et je l'ai fini début 2017, le livre. Et en fait, c'est une période où j'avais une espèce de peur un peu irraisonnée, en voyant en même temps des gens, évidemment, mourir autour de moi, notamment du cancer. C'est pas totalement irrationnel, mais il y avait une sorte de côté un peu hypochondriaque chez moi qui m'a conduit à écrire ce livre. Et en même temps, c'est vrai que le cancer, c'est quand même la maladie des deux siècles, 20e et 21e, dans lesquels moi, je vis. Donc forcément, j'ai un peu... autant le sida, c'est un peu plus facile à éviter par plein de moyens, autant le cancer, c'est une sorte de maladie civilisationnelle à laquelle il est difficile d'échapper, qui est lié aussi à l'ère industrielle, et comme par un fait exprès, Tony Iommi lui-même, il est un accident industriel, en fait. Il y a une espèce de rupture, il y a un avant et un après cet accident pour la musique moderne. Donc tout s'explique par ça, et c'est pour ça que commencer par le cancer, c'était aussi une espèce de surprise, et quelque chose qui me permettait de prendre le lecteur de court dès la première page, dès la première phrase, mais aussi moi-même de me rappeler que... Je peux être en partie responsable de ce qui m'arrive, et donc je peux être aussi en partie responsable de mon salut.
D'ailleurs, le comment dire, dans ce livre, hein, les doigts de Tony Iommi, moi je le prononce un peu à la française, Tony Iommi, en
oui,
vérité,
oui,
voilà,
sûr,
que vous avez écrit Aurélien Léman, donc il y a quelque temps déjà, hein, vous l'avez finalisé il y a presque 10 ans, comme vous venez de nous le dire. Vous l'avez dit à l'instant, choisi une forme poétique, mais pas une forme poétique non plus classique, c'est une forme poétique assez singulière, parce que c'est en fait une sorte de grand poème épique, comme ça, qui se déroule sur un grand nombre de pas, et qui a presque quelque chose aussi de la fantaisie, enfin de l'univers du métal réellement.
Oui, c'est vrai, oui, merci. C'est tout à fait ça. La dimension épique, elle s'est imposée d'elle-même, je crois, à cause de la forme même de cette musique bombastique, énorme, qui casse la baraque. Donc il y avait cette nécessité-là, je pense, qui s'est imposée d'elle-même. Et puis effectivement... moi, quand j'écris de la poésie, j'en écris beaucoup. J'aime bien que chaque recueil soit différent du précédent pour me réinventer. Et puis aussi parce que chaque sujet, je crois, appelle une autre forme. Et ça, peut-être que c'est un truc à mettre en relation avec mon métier de comédien. C'est-à-dire que je ne vais pas interpréter de la même façon deux personnages différents. Ça n'aura aucun sens. Ce ne serait pas respectueux du public, ce ne serait pas respectueux du personnage et ce ne serait pas assez ambitieux pour moi. Et je pense que je fais la même chose avec la littérature et que même si on retrouve des gimmicks, peut-être pas des formulations, mais une certaine énergie d'un livre à l'autre dont j'ai pu être l'auteur. Je crois que là, il fallait vraiment aussi rentrer en résonance complète avec le heavy metal comme esthétique, comme puissance, comme rythmique, comme imagerie. Et donc, il y a toutes sortes de choses. Vous parlez de fantasy, on pourrait parler de tout ce qui est médiéval, on pourrait aussi de science-fiction, toutes ces choses qui entrent en collision avec la culture métal. Quand on voit les pochettes des albums de Black Sabbath, on s'aperçoit qu'on va voir aussi bien des démons que des robots, des pilotes de chasse un petit peu ultramodernes ou une forêt en flammes. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de choses qui évoquent une très, très, très grande variété de tons, d'images, de couleurs aussi, puisqu'on va passer du noir le plus sombre à des choses très, très, très colorées, très vives, de très mauvais goût, comme la pochette de l'album Born Again, avec une sorte de diable rouge sur un fond bleu électrique. Enfin, voilà, il y a énormément de choses comme ça que je voulais tester pour rendre hommage à cette musique et aux effets qu'elle pouvait avoir sur moi. Des effets en tant qu'auditeur, des effets... c'est une synesthésie, en fait, c'est-à-dire comment quelque chose qui ne se voit pas, donc la musique, quand on ne va pas à un concert, on l'écoute sur disque, comment cette musique, elle produit des images dans ma tête et comment je retranscris par les mots ces images. Mais ça, c'est le travail du poète de manière générale. Hein. Ce n'est pas propre à moi ou à mon approche.
Ah, il y a quand même dans votre approche il y a des éléments dans le livre qui, je trouve, sont vraiment bien sentis. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, par exemple, c'est parce que pour moi, elle résume. Le heavy metal en fait partie, mais toute une contre-culture. Quand j'entends contre-culture, j'entends une vraie contre-culture, c'est-à-dire l'époque des années 60-70, qui pour moi est différente encore de la pop culture, la contre-culture. Même si la pop culture aujourd'hui, ce serait un peu une contre-culture qui aurait été récupérée, on va dire, par le grand capital. Alors je fais des grandes phrases, mais bon. Et cette phrase que j'adore, c'est parce que c'est déplacé que c'est indispensable. Et effectivement, ça, c'est toute l'histoire. C'est à la fois le heavy metal, mais aussi le cinéma bis, la littérature érotique, toutes ces choses, en fait, toutes ces martingales inavouables qu'on adore, en fait.
Absolument. Je me souviens de Frédéric Jacquot, qui, après avoir lu un livre que j'avais, c'est un livre assez court, à peine 60 ou 70 pages, que j'avais écrit sur un livre de Maurice Dantec. J'avais écrit un court essai élogieux sur un roman de Maurice Dantec. Le livre s'appelle Messe Rouge et le roman de Dantec, c'était Villa Vortex. Et Frédéric Jacquot, qui est un très grand écrivain, pas si connu que ça, mais un super romancier qui était publié chez Gallimard, dans la série Noire, etc., avait dit à mon éditeur, en parlant de ce livre, que je savais ne pas renoncer à... Alors là, c'est moi qui je paraphrase, mais à la nécessaire vulgarité des choses. C'est-à-dire que la grossièreté, c'est mal, si vous voulez, mais la vulgarité, c'est aussi un pont vers toutes ces choses oubliées, recluses, écartées par la bien-pensance, la bourgeoisie, le capital, etc. Le capital est grossier. Les humains qui nous débattons à l'intérieur, nous avons aussi des possibilités de le rejeter avec des images crues, drôles, équivoques, salaces, violentes, qui sont nécessaires aussi pour repousser ce côté faussement propre et qui est en fait indigne, lié à nos conditions d'existence. On est de plus en plus policés, de plus en plus fliqués, de plus en plus surveillés, mais aussi de plus en plus empêchés, évidemment, de vivre, d'être, etc. Alors moi, je suis pas non plus l'apologue de la liberté totale absolument en tout. Je suis pas spécialement... Je suis libertaire à plus d'un titre, mais je ne suis pas pour cette phrase qui est « on peut plus rien dire ». Moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut, surtout dans un pays comme la France, dire pratiquement tout, énormément de choses, et sans risque. Je parle pas de ça, je parle plutôt du fait que... il faut lutter contre les puissances de l'argent qui nous bâillonnent, et il faut le faire avec des images puissantes qui sont héritées en fait de ce qu'on appelle aujourd'hui donc la pop culture, mais qui en réalité la pop culture elle-même est la continuation logique, un peu commercial peut-être, mais la continuité logique du folklore, des traditions, de la culture populaire, quoi, celle qui vient de chez nous, qui vient d'en bas au sens des racines, quoi. Et donc nous sommes à la fois les propriétaires et je pense aussi les protecteurs, les continuateurs nous-mêmes. C'est par nous que ça doit continuer à vivre. Et quand je dis nous, je veux dire le peuple, justement, pas le pouvoir. Ou plus exactement, le pouvoir de nous revenir.
Alors, je partage complètement. D'ailleurs, il suffit d'allumer CNews pour voir qu'on peut dire beaucoup de choses dans ce pays.
Et voilà. Voilà.
Oui, on est indépendants, nous, ça va, on est tranquille, on risque pas grand-chose. Bolloré va pas nous couper l'antenne, ça risque pas. Il y a aussi un autre texte, on va terminer là-dessus, mais on peut pas ne pas en parler, parce que alors déjà, moi, je suis fan de Blue Oyster Cult aussi et de The Clash, donc ça fait partie de deux groupes, c'est deux groupes que j'adore. Et donc, je suis très content de voir qu'il y a après les doigts de Tony Iommi, il y a un petit texte qui s'appelle « Le fils de l'huître », ça s'appelle. Qu'Aurélien Lemans, vous écrivez donc dans cet ouvrage-là qui paraît chez Le Feu Sacré Édition. Et c'est un texte qui est consacré à Sandy Pearlman, qui en fin de compte assez méconnu, à part des amateurs, je veux dire, de rock. Mais vous écrivez une phrase que j'aime beaucoup, c'est « La Pearlmania n'existe pas, j'aimerais l'inventer ». Croyez-vous que vous allez réussir à l'inventer via ce texte? Je le souhaite, en tout cas.
Bah, je souhaite aussi, parce que je souhaite pour lui, je souhaite pas pour moi, je souhaite pour Sandy Pearlman, parce que c'est un type tellement intéressant, qui a tellement lui aussi d'influences secrètes, inconnues sur la culture populaire et sur le hard rock et sur la culture punk. C'est un Sandy Pearlman, en quelques mots, c'est un érudit. Né en 1943, décédé en 2016, qui était en fac d'histoire des idées à Long Island. Et c'est lui qui a été le manager, et on va dire l'homme de l'ombre, l'éminence grise du Blue Oyster Cult, qui est parfois considéré comme le premier groupe de heavy metal américain. Une espèce de réponse new-yorkaise à Black Sabbath, justement. Donc il y a un lien entre ces deux groupes, et un lien d'autant plus fort que Sandy Pearlman a managé également Black Sabbath pendant une courte période. Ça s'est pas très bien passé avec les musiciens, en revanche, ça a accouché d'un album que moi je n'aime pas, mais qui a été un succès très important, et qui est aussi une sorte de nouvelle pierre blanche, ou je devrais dire une pierre noire dans l'histoire du rock. C'est l'album Heaven and Hell de Black Sabbath, avec Ronnie James Dio au chant. Qui est le premier album après la période de Ozzy Osbourne, le chanteur historique du groupe. Et c'est un album qui, en termes de puissance sonique, est renversant, bouleverse vraiment la donne, change complètement le marché de ce qu'est le hard rock. Et Sandy Pearlman, il a été aussi, il a travaillé avec les Clash, avec le Clash, sur un album magnifique qui, pour moi, est le meilleur album du groupe, c'est Give Them Enough Rope, le second album studio. C'est un théoricien du rock and roll. Il a enseigné en musicologie et aussi en économie de la musique dans l'université McGill au Canada. Et il est lui-même un parolier, très très grand poète lui-même. C'est d'abord en tant que poète que je veux saluer Sandy Pearlman. Et donc c'est d'un poète à un autre qu'a été écrit ce livre. Les fils de l'huître, pour expliquer brièvement pourquoi ce titre, en fait... Blue Oyster Cult, la secte de l'huître bleue, le culte de l'huître bleue. Donc c'est un groupe de personnages étranges apparaissant dans un poème fleuve, un poème hybride gigantesque écrit par Sandy Pearlman quand il était étudiant, et qui a fini sous la forme d'innombrables chansons chantées par Blue Oyster Cult, ou plus tard par le batteur Albert Bouchard, dans littéralement une douzaine de disques. Et fils de l'huître, c'est la traduction pas du tout littérale de l'expression Oyster Boy, qui est employée dans une des chansons du groupe. Et pour moi, le vrai fils de l'huître, c'est Sandy Pearlman. C'est l'espèce de perle. D'ailleurs, son nom, on pourrait le dire comme ça, l'homme à la perle, hein, Pearlman, c'est la perle cachée au fond de la culture pop. Cet homme qui était tellement érudit, qui s'intéressait à tellement de formes littéraires, cinématographiques, musicales, politiques, philosophiques, spirituelles, occultes même, hein, il s'intéressait beaucoup à l'ésotérisme. C'est quelqu'un qui était tellement un puits de science et qui a tellement infusé la culture rock vraiment mais de l'intérieur, quoi, un peu comme un virus, qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas qui il est, on n'a jamais entendu parler de lui, et pourtant il est partout, il est vraiment partout.
Pour rappel, le livre « Les doigts de Tony Iommi », suivi de « Fils de l'huître » donc, est paru chez le Feu Sacré Édition et il est signé Aurélien Le Mans et c'est un de nos conseils lecture de rentrée. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Johan Chanoir, dit Le Chat Errant. Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard. Aussi un petit coup de main à la technique de l'ami Damien Demey, alias La Bête Noire de Compiègne. Et enfin, the last but not the least, je veux bien sûr parler de celui qui est responsable de l'architecture sonore de cette émission, Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine !